Alors justement, pour continuer, je voudrais maintenant m'intéresser à la façon dont ces musiques étaient considérées par les colons et la place qu'elles pouvaient avoir. La première chose à dire, c'est que l'espace sonore était contraint. L'espace sonore était contraint par les colons qui y mettaient leurs lois. Hein, et la première de ces lois, c'était l'interdiction des assemblées. Alors voici une toute première manifestation de cette interdiction qui est avant le Code Noir, avant la publication du Code Noir en Martinique. Hein, on est dans les années entre 1654 et 1678. Donc, les danses et assemblées nègres défendues par l'article 16 de la même ordonnance l'avaient été de tout temps, de même dès le principe de la colonie. On sentait l'utilité d'une police si nécessaire à la sûreté de tous les colons. Le 4 mai 1654, le Conseil avait fait aux nègres ses défenses sous peine de vie. Repris par l'article 16 du Code Noir, défendons pareillement aux esclaves appartenant à différents maîtres de s'attrouper le jour et la nuit sous prétexte de noces ou autrement, soit chez l'un de leurs maîtres ou ailleurs, et encore moins sur les grands chemins ou lieux écartés, à peine de punition corporelle qui ne pourra être moindre que du fouet et de la fleur de lys, et en cas de fréquentes récidives et autres circonstances aggravantes pourront être punies de mort. Donc voici. Donc c'est le départ. On a dit, ça a été redit récemment dans un ouvrage de Jean-François Niort sur le Code Noir, que le Code Noir, en fait, c'est simplement la mise en ensemble d'un certain nombre de jurisprudences qui existaient déjà. Donc le Conseil supérieur de la Martinique avait anticipé, et en fait, le Code Noir est simplement la traduction de cela. Ensuite, ce qui est notable, c'est que cela continue. Voici en 1758 à Saint-Domingue une ordonnance qui condamne un maître, gérant de l'habitation, pas un maître, un gérant d'habitation, à 300 livres d'amende avec défense de récidiver sous la plus grande peine pour avoir souffert une assemblée de nègres et un calendar le 23 juillet précédent. On est déjà 70 ans plus tard que le Code Noir et cela continue toujours et cela continuera tout le siècle. En fait, jamais, à aucun moment, les assemblées ne seront... il n'y aura d'arrêt. Les assemblées continueront malgré les interdictions. Et en définitive, on voit que maintenant, la garde baisse, si on peut dire. Dans le cas, on est en 1762, cette fois-ci, dans le cas où les nègres ou mulâtres, même libres, tiendraient des assemblées de danse, si les 10 nègres libres ne sont munis d'une permission expresse, ils les feront, alors il s'agit de la police, ils les feront discontinuer et même en cas de désobéissance, ils arrêteront les principaux nègres ou mulâtres et dans le cas où ils seraient même munis d'une permission, ils examineront s'il n'y s'y trouve des nègres ou négresses, mulâtres ou mulâtresses esclaves. Et dans ce cas, ils arrêteront ces derniers. Ils arrêteront. Tout à l'heure, c'était puni de mort. Plus tard, on a autorisation. Autorisation aux libres de couleur, défendant sous la même peine que dessus aux gens de couleur et aux nègres libres les danses de nuit ou calenda, donc ça y est, les calendas sont définitivement des danses de nuit, hein, leur permettant seulement de s'assembler pour danser le jour jusqu'à 9h. Bon, le jour, à 9h, il ne fait plus jour, mais enfin bref, toujours est-il qu'ils peuvent danser jusqu'à 9h. Alors cette instruction est très intéressante parce qu'en remontant, on s'aperçoit maintenant, alors c'est un petit peu, voilà, je ne sais pas si vous arrivez à lire, ordonnance des administrateurs sur les bals des gens de couleur en 1749, toujours à Saint-Domingue, le sieur de Sartre, procureur du roi du Cap, nous ayant remontré que dans les assemblées qui se tiennent chez les mulâtresses et négresses libres, il y va des blancs et des esclaves déguisés de façon à n'être pas connus, etc., etc. Donc ce qu'on voit, c'est qu'il y a eu des assemblées de gens libres qui étaient autorisées, et dans ces assemblées, il y avait des blancs et des esclaves qui allaient. Donc je parlais tout à l'heure des passeurs, ils y étaient certainement les passeurs là. Qui jouait, qui écoutait, comment est-ce que cela ressortait? Vous verrez tout à l'heure qu'il y a des choses plutôt étonnantes qui en sont ressorties, et qui sont du domaine justement des échanges. Alors des échanges qui se font d'une façon un peu particulière, mais en tout cas, là, c'est assez clair. Alors, je voulais juste faire une remarque sur le travail de l'historien et sur le corpus. En définitive, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup plus d'informations dans ce que les colons laissent échapper sans le vouloir que dans ce qu'ils écrivent eux-mêmes. Si on regarde les textes des colons, ils disent des choses, mais ces choses sont filtrées. Hein. Ils vont même jusqu'à modifier la réalité, on le sait, quand on a accès aux documents qui ont permis de construire ces textes, on s'aperçoit qu'ils ont biaisé systématiquement ce qu'ils avaient à dire. Mais par contre, lorsqu'on a affaire à des textes comme ça, qui sont des ordonnances, quand on va chercher dans les documents notariés, comme le font un certain nombre de collègues de façon très extensive, on a des renseignements quelquefois qui sont très intéressants. Je me rappelle que Frédéric Réjean m'avait dit que l'esclave le plus cher de tout son corpus s'appelait Toeschi. J'étais faire une petite recherche. Toeschi est un brillant violoniste européen. Et donc, l'esclave en question, il était très cher parce que c'était un violoniste. Il était musicien et il l'avait appelé Toeschi. Le maître l'avait appelé Toeschi. Donc, c'est des détails comme ça qui permettent de gratter un petit peu cette coque qu'il y a manifestement autour de la question de l'esclavage, dès lors qu'elle est racontée par quelqu'un d'autre.